Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur celles et ceux que l'on appelle souvent les anges gardiens de notre quotidien, les pompiers. Dans le cadre d'un projet avec la radio PFM, orchestré par quelques élèves de la filière Infocom du lycée Baudimont d'Arras, nous avons rencontré l'adjudant-chef Sébastien Piscini du centre d'incendie et de secours d'Arras.
Je m'appelle Sébastien Piscini, je suis adjudant-chef au centre de secours d'Arras, je suis marié et papa de deux petits garçons de 6 et 9 ans. Et je suis pompier depuis 2001 à 2005, jeune sapeur-pompier, 2005 à 2008, sapeur-pompier volontaire ici à Arras, et depuis 2008, sapeur-pompier professionnel.
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
Moi, tout simplement, mon père était sapeur-pompier. En fait, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Je venais le voir au centre de secours. J'ai décidé de suivre la voie et aujourd'hui, je suis toujours pompier.
Donc, c'est une vocation quelque part ?
Ah oui, c'est une vocation, c'est une vocation.
À quoi ressemble une journée type en caserne, s'il y en a une ?
Alors forcément, une journée, elle est rythmée par les interventions. Et par contre, on a une chronologie à suivre de manière quotidienne. Donc on a le rassemblement au matin à 7h30 pour faire l'ensemble des piquets avec les engins pour les agents. On a la vérification des véhicules pour savoir s'il n'y a pas de soucis. On a une séance de sport obligatoire. En plus de faire l'activité opérationnelle, on a chacun un service en fait dans le centre de secours, de la formation, les équipements de protection individuelle, les unités spécialisées. Donc jusqu'à midi, on travaille dans nos services. Après, entre 12 et 14 heures, on a la pause méridienne. À 14 heures, de nouveaux rassemblements, manœuvre obligatoire de la garde. Et puis après, une fois que la manœuvre est terminée en fonction de la thématique, le nettoyage du centre de secours. Parce que forcément, on vit à l'intérieur, les sanitaires, les locaux, tout simplement.
Quelle est la part de préparation, d'entraînement et de formation dans votre quotidien ?
Au quotidien, on a 1h30 de sport obligatoire par jour. On peut faire une seconde séance au soir, mais c'est à la diligence de l'agent. Mais on a une séance encadrée par un opérateur sportif, donc quelqu'un qui est formé pour nous faire les séances de sport, et environ 2 heures de manœuvre par jour.
Quelles qualités sont indispensables pour exercer ce métier, selon vous ?
Des qualités, il en faut pas mal, mais je pense que l'esprit d'équipe, c'en est une principale. On est pendant 24 heures ici sur notre lieu de travail. Donc si on n'a pas un minimum d'esprit d'équipe, ça fonctionne mal. Il faut le respect aussi bien de notre hiérarchie que de nos collègues et aussi des victimes en intervention. Et puis tout simplement la discipline.
À peu près, combien d'interventions faites-vous à l'année ?
On est environ sur 10 500 à 11 000 interventions à l'année, ce qui représente en moyenne entre 30 et 40 départs par jour.
Certaines interventions restent gravées à jamais ? Y en a-t-il une qui vous a marqué ?
Alors des interventions marquantes, il y en a, mais on va en parler des interventions qui sont marquantes mais qui sont restées joyeuses. Au tout début de ma carrière de pompier professionnel, quand je travaillais dans le bassin minier, on a été appelé pour un accouchement à domicile. Et sans assistance d'équipe médicale, parce qu'on travaille en partenariat avec le SAMU. Et on s'est retrouvé trois sapeurs-pompiers à effectuer l'accouchement d'une dame sans assistance. Et je me suis retrouvé à avoir le nouveau-né dans les mains à l'accouchement, quoi, tout simplement. Donc ça restera, tout au début de ma carrière, ça restera marqué.
Que diriez-vous aux enfants qui rêvent de devenir pompiers ?
Ah ben là, je peux parler en connaissance de cause, de croire en ses rêves. Il faut quand même bien travailler à l'école, ça c'est une certitude. Alors pour moi, d'autres personnes ne diront pas forcément la même chose, mais pour moi, ça reste le plus beau métier du monde.
Est-ce que la caserne propose des formations ou des brevets de secourisme pour le grand public ?
Alors, le centre de secours, non. On a des associations qui font passer les PSC, formation, tout ce qui est formation incendie, formation sauveteur secouriste du travail, mais il faut passer par des associations. Donc nous, il y en a une qui dépend entre guillemets du centre de secours, mais ça reste du civil. C'est pas les pompiers en tenue qui effectuent les formations.
Il est essentiel donc que chacun ait des notions de gestes de premier secours. Selon vous, quelles initiatives pourraient être mises en place pour former la population ? Et serait-il pertinent de les inclure dans les projets éducatifs scolaires afin de sensibiliser les jeunes ?
Alors oui, sensibiliser la population, c'est essentiel. Tous les ans, il y a plusieurs événements qui sont organisés. Alors, je parle surtout pour la Rajoie, mais des événements 14 juillet, il y a des événements tout au long de l'année organisés par la mairie où on montre aux gens en fait les gestes qui sauvent. Donc c'est sur des courtes périodes de entre 30 minutes et 2 heures qui expliquent vraiment l'essentiel, la protection, l'alerte et vraiment les gestes essentiels de secours. Après, en ce qui concerne les enfants, je pense qu'on peut commencer très jeune, dès la primaire. On peut déjà leur apprendre les numéros d'appel d'urgence s'il arrive quelque chose à leur domicile. Et puis, savoir donner ne serait-ce qu'une adresse aux opérateurs du 18 ou du 15 ou du 112. Et puis forcément, monter crescendo en fonction des années, donc le collège, le lycée. Et on pourrait faire une formation continue comme ça sur plusieurs années, oui. Ça serait une bonne chose.
À travers votre métier, vous êtes avant tout des êtres humains. Comment parvenez-vous à gérer sur le plan psychologique les interventions traumatisantes, notamment lorsqu'elles concernent des jeunes, comme cela a pu se passer lors du drame de Crans-Montana, par exemple? Dans ce cas, pouvez-vous bénéficier d'un soutien psychologique?
Alors en effet, on a l'expérience qui fait que tout simplement on se protège instinctivement. On essaye de faire abstraction de choses qui sont difficiles. Nous, quand on rentre d'intervention, la plupart des agents, on discute entre nous de l'intervention, savoir comment ça s'est passé, si les plus jeunes ont des choses à nous faire remonter. Et à l'heure actuelle, depuis quelques années maintenant, on peut être contacté automatiquement par une des psychologues du SDIS. Sur certaines interventions que eux vont juger difficiles, notamment avec des jeunes, etc. Et nous, on peut aussi faire la demande en dehors. Sinon, on se sent concerné et on ressent le besoin de demander une assistance psychologique.
Et vous nous avez parlé de la collaboration avec le SAMU et le SMUR. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Alors le SAMU, on travaille de manière permanente avec eux, on collabore ensemble et en fait on est complémentaires. Donc nous, les sapeurs-pompiers, on reste des prompts secouristes et eux, le SAMU, nous apporte une assistance médicale. Donc eux, avec un médecin, un infirmier, eux, ils nous apportent les soins avec les perfusions, avec l'administration de médicaments et certaines opérations un peu plus compliquées. Donc on est complémentaires.
Vous nous avez également dit que le métier de pompier est le plus beau métier du monde. Qu'est-ce qui vous rendrait le plus fier dans cette véritable vocation?
Alors là, moi, je vais parler pour moi personnellement. Moi, en fait, ce qui me rend fier, pour moi, comme je vous ai dit, c'est ça reste l'un des plus beaux métiers du monde. Et moi, ce qui me rend fier, c'est quand mes garçons viennent me voir à la caserne et qu'ils me regardent avec des grands yeux quand ils viennent me rendre visite, tout simplement. Donc, le regard de mes enfants.
Le CODIS, que nous rappelons Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, est souvent le premier maillon de la chaîne de secours. Quel est son rôle dans la gestion des urgences et dans le déclenchement des interventions?
Alors, en effet, il faut bien différencier le CODIS et le Centre de traitement de l'alerte, donc le CTA. Donc, en fait, le premier maillon, c'est le CTA, donc le Centre de traitement de l'alerte du Pas-de-Calais, qui se trouve à Saint-Laurent-Blangy, et lui régule tous les appels qui sont passés au niveau du 18. Il régule en fait tous les appels du 62 et après, une fois que les interventions sont envoyées dans les différents centres de secours du département, c'est le CODIS lui qui coordonne les agents et les engins sur le terrain. Donc ils ont le CTA lui gère le début de la mission, il reçoit les appels et le CODIS lui nous coordonne sur intervention.
Les calendriers font bien évidemment partie des traditions. Comment êtes-vous accueilli par la population lors de votre passage et comment se déroule leur organisation?
Alors pour la préparation, on a un bureau de l'amicale qui est très efficace, qui lui en fait travaille sur l'année. En fait, ça se fait pas. On sait qu'on vient embêter les gens le samedi matin ou le dimanche matin pour les calendriers, mais il y a un travail qui est fait annuellement en fait avec tous les partenaires, les imprimeurs, avec les commerçants ou les entreprises du secteur qui nous permettent en fait de financer ce calendrier. Donc il y a un travail qui est fait annuellement avec eux, avec les membres de l'amicale. Et nous, de manière générale, on est vraiment bien accueillis par la population. Les pompiers sont encore bien vus par les gens. Et on sait aujourd'hui que les gens nous prennent le calendrier plus par sympathie avec les pompiers que par le calendrier en lui-même.
Si vous aviez un message à transmettre au public et à toute la population, et notamment celle qui achète vos calendriers, que serait-il ?
Alors le message qu'on pourrait passer, c'est que moi, ce qu'on demande et ce qu'on voit en intervention, c'est que les gens respectent l'ensemble des agents qui interviennent. Alors là, tout confondu, un pompier, police, SAMU, les différents services partenaires et aussi forcément les victimes, parce qu'on voit malheureusement aujourd'hui trop souvent les gens qui ont tendance à filmer nos interventions au détriment des victimes. Et puis aussi, après, c'est commenté sur les réseaux, il faut toujours penser à ceux qui vont les lire, quoi.
Pouvez-vous nous parler du bal des pompiers et en quoi est-il un événement important ?
Alors, je ne maîtrise pas trop le sujet parce que c'est géré par le bureau de l'Amicale. Mais le bal, en fait, c'est un échange festif avec la population où ils nous voient, en fait, sous un autre regard. Ça se passe très bien. Par contre, c'est une préparation qui est pareille, comme les calendriers, qui est annuelle avec les différents partenaires parce qu'il faut, il faut gérer l'allocation du matériel. Trois jours avant, il y a un très, très gros travail qui se fait ici au centre de secours. D'ailleurs, les trois jours, forcément rythmés par les interventions, sont consacrés à la préparation du bal. Et forcément, après le bal, il y a aussi du nettoyage, du rangement pour parfaire et que la caserne redevienne opérationnelle comme avant.
Que peut-on attendre de cette édition 2026 ? Y aura-t-il des nouveautés ou des surprises ?
Alors, c'est une bonne question. J'ai pas ces infos, mais toujours est-il qu'il y aura une bonne ambiance avec les différentes animations. Mais non, j'ai malheureusement pas ces infos.
Combien de temps vous faut-il donc pour préparer ce bal chaque année ?
Bah, comme je vous ai dit précédemment, en fait, c'est une préparation sur l'année hein, qui est assez conséquente. Beaucoup d'appels téléphoniques, de mails, d'échanges aussi avec les partenaires, avec la mairie. Et je vous dis, un gros travail trois jours avant et une ou deux journées au moins encore après le bal.
Avez-vous eu l'occasion de travailler et collaborer avec d'autres pompiers, notamment ceux de la Somme par exemple ?
Alors nous ici sur Arras, on est au cœur en fait du département, on est sur la préfecture, donc nous on n'est pas trop amené à travailler avec les autres départements, plus les secteurs limitrophes comme Bapaume qui va avoir plus tendance à travailler avec la Somme, ou le secteur de Ouani avec le Nord, mais il se peut que sur certaines interventions, on soit amené à nous déplacer d'un département à un autre, surtout pour tout ce qui est unité spécialisée.
Quelles sont les spécificités d'un centre secours de ville comparé à celui d'un centre de secours en campagne ?
Il n'y a pas spécialement de spécificité. Alors ici, on est certes en milieu urbain, mais le centre de secours d'Arras défend à lui tout seul 43 communes. Donc Arras, plus tout ce qui est communauté urbaine aux alentours. Et aussi, on a pas mal de communes rurales qu'on défend. Donc nous, on est quand même assez polyvalent au niveau des interventions, que ce soit le rural ou l'urbain.
Êtes-vous confronté à de grands risques chaque jour ? Estimez-vous assez protégé face à toutes sortes de situations de danger ?
Alors le risque, il est permanent. Il n'est pas forcément où on l'attend. On s'attend toujours à avoir les risques les plus importants sur incendie, mais ne serait-ce que sur les accidents de la route où les gens sont pas forcément attentifs à nous ou ont tendance à regarder ce qui se passe et perdre du regard leur route. Mais nous, à notre niveau, on est quand même relativement bien équipés, aussi bien au niveau des équipements de protection individuelle, de la prise en charge après les incendies. On a des risques fumés avec une prise en charge assez importante maintenant. Et puis des visites médicales annuelles ou pour les plus anciens et tous les deux ans pour les plus jeunes. Donc oui, on est bien suivi et je pense qu'au niveau protection, que ce soit les engins ou nos protections individuelles, on est bien évolué.
Merci à l'adjudant-chef Sébastien Piccini pour votre témoignage et votre engagement au service de la population. Merci également au commandant Krajewski pour nous avoir permis de réaliser cet entretien. Cette interview vous a été proposée par Célia, Florian et Lou, de la filière Infocom du lycée Baudimont à Arras, en partenariat avec Radio PFM.
Dans le cadre d'un atelier avec la filière Infocom du lycée Baudimont, en partenariat avec Radio PFM, nous avons interviewé Andrea, pompier volontaire à la caserne d'Avesnes-le-Comte.
Bonjour à tous, j'ai donc 23 ans et maintenant ça va faire bientôt 5 ans que je suis pompier volontaire, donc le 1er juin 2021 exactement.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'exercer ce métier ?
Mes envies, ça a été très simple, hein. Donc je suis quelqu'un qui aime aider les gens, donc forcément c'est un des critères principaux à avoir pour devenir pompier. Donc aider les gens et vraiment me sentir utile dans la vie de tous les jours. Donc voilà, servir la population et pouvoir les aider.
Très bien, vous êtes pompier, mais vous êtes particulièrement pompier volontaire. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence justement entre un pompier volontaire et un pompier professionnel ?
Donc en fait la différence, ça va commencer déjà par le parcours. Donc un pompier professionnel, lui, pour avoir ce statut de professionnel, il va devoir donc passer un concours, valider un concours et suite à ça, ensuite il va faire une formation qui est dite une formation initiale où en fait bah, il va être formé pendant autant de temps aux différents modules du métier de pompier. Pour le volontariat, alors ça fonctionne sans concours, mais ça reste à peu près le même principe, c'est-à-dire que en fait on va venir poser notre candidature dans une caserne, on va être ensuite sélectionné en interne, donc voilà, il y a des épreuves sportives à passer, des entretiens aussi, et ensuite le même déroulement qu'un pompier professionnel, on va devoir passer du coup des formations donc suivant les différents modules également, et ensuite le volontaire se forme en fait, en général c'est sur une moyenne de 1 an.
J'imagine qu'il y a différents grades chez les pompiers, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne et dans lequel vous vous positionnez actuellement?
Alors en général en caserne on a plusieurs gradés, donc on commence en tant que sapeur, ensuite au bout des 3 ans, on obtient le grade de première classe. Et donc, à la volonté donc, du pompier, s'il est volontaire, bien évidemment, on peut éventuellement passer du coup ses caporaux. Donc, caporaux, ensuite caporaux-chef, sergent-sergent-chef, adjudant-adjudant-chef et lieutenant. Après, lieutenant, c'est capitaine. Et ensuite, on a des hauts gradés, mais en général, en caserne, on a très souvent, on n'a pas au-dessus de capitaine.
En étant pompier volontaire, est-ce que vous avez une journée type lorsque vous arrivez à la caserne?
Alors dans les casernes en général c'est souvent un peu la même, donc selon les casernes on a des créneaux horaires qui varient d'une demi-heure, donc soit on commence à 7h jusqu'à 19h ou 7h30 jusqu'à 19h30. Qu'on arrive, donc prise de service, on fait un point en fait avec donc les chefs de poste où ils vont nous établir en fait la journée, les tâches à faire, ce qu'on doit faire, etc. Donc en général la matinée on commence du coup avec une séance de sport qui est obligatoire. En moyenne c'est 2h selon les casernes, en général c'est entre 1h et 2h de sport opérationnel, et puis après avant ça j'ai oublié de préciser qu'on vérifie tous les matins les engins qui nous sont attitrés, on vérifie le matériel, on vérifie le bon fonctionnement du matériel, on nettoie en fait l'ambulance tous les matins, ensuite on fait la séance de sport et après selon le planning et les jours on fait les tâches qu'il y a à faire.
C'est normal que ce métier vous demande une bonne condition physique, comment vous vous y préparez, comment vous vous conditionnez à ce genre de métier justement qui est très physique?
Alors, moi, de manière générale, j'ai toujours été sportive, donc m'y préparer, je me suis pas vraiment y préparée puisque j'ai toujours fait du sport. Après, c'est vrai que les pompiers, forcément, faut avoir un minimum de conditions physiques parce que nos missions, que ce soit dans le secourisme, pour brancarder quelqu'un, il faut un minimum de force parce que selon la corpulence des personnes et aussi le poids en plus du brancard, ça nécessite quand même un minimum de force. Et puis après, pour l'incendie, ça, faut vraiment avoir une bonne condition parce que c'est en plus, on a une tenue particulière qui pèse un certain poids. Donc il y a ça, plus le stress de l'intervention aussi, parce que mine de rien, ça nous fatigue. Donc si en plus on n'a pas de conditions physiques, on peut vite faire des malaises. Et ça arrive très souvent d'ailleurs sur intervention que les pompiers fassent des malaises au vu de l'intervention, quoi.
Bah justement, pour parler de vos interventions, est-ce qu'il y a des interventions qui vous ont particulièrement marqué, que ce soit positivement ou négativement ?
Je dirais pour l'instant, j'ai pas vraiment eu d'interventions qui m'ont marqué vraiment, qui m'ont choqué pour le moment. Après, je dirais quand même que c'est quand on est face à la mort, quand on doit découvrir un cadavre, en fonction de l'état du cadavre, ça peut éventuellement marquer. Et aussi quand on a des personnes en arrêt, qu'on doit réanimer, selon si c'est un adulte, un enfant ou un bébé, ça peut marquer bien évidemment.
Oui, bien sûr, je comprends. Après, comment ? Quel type d'interventions sont les plus fréquentes selon vous ? À quelle situation vous êtes le plus confronté dans votre caserne ?
Alors dans mon secteur, donc c'est un secteur qui est plutôt du coup au niveau de la campagne. On a, je dirais souvent des malaises, que ce soit des malaises cardiaques. C'est assez varié. En fait, c'est très différent de la ville. En ayant fait les deux, c'est vrai qu'à la campagne, on a vraiment plus des malaises. C'est hyper varié. Contrairement à la ville où là on passe plus sur par exemple des personnes alcoolisées sur voie publique. Donc c'est vraiment différent selon si c'est une ville ou la campagne. Mais c'est assez varié. On n'a pas vraiment d'intervention qui... On fait plus quand même de secourisme. 90% du temps on fait du secourisme. sauf en période d'été estivale. Là, on va plus faire des feux d'incendie de forêt ou ce genre de choses. Mais c'est plus du secourisme qu'on fait souvent.
D'accord. Et aujourd'hui, comment vous percevez le regard du public sur les pompiers ?
Alors, moi, en tant que pompier, j'ai toujours eu une bonne approche avec le public. Après, ça dépend aussi forcément des secteurs où on va intervenir, forcément. J'ai toujours eu une bonne approche avec le public et inversement, pour l'instant, j'ai pas eu vraiment de problème particulier avec la population. J'ai pas vraiment eu de soucis là-dessus.
D'accord. Et est-ce que ce métier vous a appris quelque chose en particulier sur vous ou même sur la vie en général ?
Alors moi, je dirais pas que c'est le métier qui m'a appris. Je dirais plutôt que c'est un métier qui éduque. Je suis rentrée très jeune. Hein, je suis rentrée à 17 ans et demi. Et à 17 ans et demi, on connaît pas trop la vie. On se pose beaucoup de questions. Et c'est vrai que c'est un métier où on doit vite prendre des responsabilités. On doit être très vite mature. Donc c'est vraiment pour moi plus le métier qui m'a éduquée dans ce sens-là. C'est vraiment une éducation de la vie. Et ça nous apprend beaucoup de choses, forcément.
D'accord. Comme vous dites, vous avez commencé très jeune, 17 ans. Comment ça s'est passé, votre intégration dans une équipe qui est majoritairement masculine ?
Alors, c'est vrai que quand on rentre jeune, et en plus, quand on est une femme, c'est vrai que des fois, ça peut être compliqué selon les collègues qu'il y aura, hein. Forcément, plus les collègues sont âgés, des fois, avec la différence des générations, des fois, ça peut être compliqué. Mais justement, je pense que quand on décide de s'engager dans ce genre de métier, on s'y prépare indirectement. Et il faut montrer que, même si on est jeune, même si on est une femme, qu'on a notre place dans ce corps de métier. Donc, l'intégration, de manière générale, ça se passe assez bien, mais il faut en vouloir. Il faut montrer qu'on n'est pas là pour rien, quoi.
Oui, c'est sûr. Mais du coup, que diriez-vous à quelqu'un, justement, qui hésite à devenir pompier volontaire ? Et est-ce que vous pensez continuer dans cet engagement par l'avenir ?
Je conseillerais à une personne qui veut s'engager au sein des pompiers, je dirais que je conseillerais déjà... de ne pas hésiter, parce que c'est une vraie leçon de vie, et c'est vrai qu'on apprend énormément de choses, même hors métier, c'est vrai qu'on apprend des choses de la vie, comme l'entraide ou vraiment la solidarité, et pour moi, c'est des valeurs qui sont quand même très importantes dans ce métier. Je conseillerais aussi d'être très sérieux, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on porte l'uniforme, on n'est plus un civil, donc on a des responsabilités et il faut être sérieux, quoi. Faut pas rire, quoi. On a vraiment la vie des gens entre les mains, donc c'est pas anodin.
Justement, donc vous avez évoqué le fait que vous êtes également un civil, hein, sans votre uniforme. Donc est-ce que vous avez été confronté justement au bal des pompiers ? Et quel rôle joue ce genre d'événement au sein de votre caserne ? Et comment ils sont organisés de manière générale ?
Alors moi, personnellement, avec ma caserne actuelle, j'ai pas encore eu l'occasion de faire le bal des pompiers dans cette caserne. Mais c'est vrai que en ayant participé du coup en tant que plus civil que pompier, c'est vrai que c'est un événement qui est très festif. C'est aussi un événement où la caserne doit vraiment bien s'organiser. D'ailleurs, en général, c'est l'amicale de la caserne concernée qui organise, et c'est vraiment une organisation très très grande. Et puis c'est un événement de partage, c'est public, et puis ça permet de montrer une bonne image et de partager des choses avec la population. Et je pense que c'est vraiment un événement qui est très positif et pour la caserne et pour le relationnel.
Justement, dans ce genre d'événement, justement, c'est très festif, ça vous permet d'établir un contact avec les civils. Mais on a traversé une période assez compliquée pendant la pandémie de la Covid-19. Donc comment vous avez vécu cette période en tant que pompier volontaire ?
Alors moi, je suis entrée tout juste avant cette pandémie, donc c'est vrai que j'étais en plein dedans, en fait, finalement. En tant que pompier, c'est vrai que nos nombres d'interventions ont vraiment augmenté parce que forcément, à ce moment-là, les médecins étaient autant débordés, les hôpitaux aussi. Donc, les pompiers, on a pris vite le relais. On était très souvent appelés pour des cas Covid. Et c'est vrai que c'était une période, je pense, une activité opérationnelle qui a bien augmenté dans toutes les casernes de manière générale. Et ça a vraiment impacté toutes les casernes. Donc, c'était plus sportif. Et puis, des fois, c'était assez compliqué d'enchaîner beaucoup d'interventions, de jour comme de nuit, et c'était assez fatigant.
Après, vous aviez dit que justement, le rythme était assez intensif. Est-ce que vous avez des collaborations, notamment avec le SAMU, ce genre d'organisation
Alors, nous, les pompiers, on travaille avec un peu tout le monde. On travaille avec, le SAMU, c'est vrai qu'on les voit assez souvent sur intervention. Selon le motif ou l'état de la victime, on fait appel au SAMU. On travaille énormément aussi avec les forces de l'ordre, donc la police ou les gendarmes, selon le secteur. Donc on travaille avec beaucoup de monde, c'est vrai.
C'était Andrea, pompier volontaire à la caserne d'Avesnes-le-Comte, dans le cadre d'une interview avec la filière Infocom de Beaudimont et Radio PFM. Vous êtes avec Zoé, Louise et Zoé, dans le cadre d'un atelier avec la filière Infocom à Beaudimont. On vous embarque avec Quentin Deroy, coach sportif, accompagné de son stagiaire Yanis, pour en savoir plus sur son métier, mais surtout sur l'oncologie. Entre le déroulement d'une séance type, l'importance du sport au quotidien en passant par l'aspect relationnel de séances sportives, Quentin Deroy répondra à toutes nos questions.
J'ai 31 ans, je suis éducateur sportif et enseignant d'activité physique adaptée. Je fais ma profession sur la grande partie d'Arras. Je fais aussi un peu sur la partie sud-artois, mais principalement au centre d'Arras.
Donc moi c'est Yanis Gossens, là je suis actuellement en formation BPJEPS MAPT. Je suis en stage pendant un an avec Quentin, donc pour devenir éducateur sportif par la suite.
Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'une séance type ?
Alors, sur une séance type, on peut voir toute une structure qui a été apprise en formation, ce que Yanis est en train de voir d'ailleurs actuellement. C'est une séance construite avec un but, des objectifs généraux, des objectifs opérationnels, et en adaptation avec le public qui est visé. Il y a plusieurs publics qui peuvent être... étudier à ce moment-là les seniors, les adultes, un public handicapé, un public sous pathologie, il y a un peu de tout. Une séance type, c'est construit vraiment avec un échauffement, un corps de séance et un retour au calme.
Qu'est-ce que le contact avec les personnes vous a apporté et vous apporte en général ?
Je dirais que la partie humaine dans ce métier-là, elle est primordiale. Je dirais que elle m'apporte avec le public porteur de handicap une remise en question constante déjà dans la construction des séances parce que c'est jamais la même chose et ce que j'ai pu prévoir sur papier sur le moment sur le terrain ça rend pas pareil dans le sens où je ne sais pas comment ils se sont levés, ce qui les a perturbés avant la séance, comment ils appréhendent la séance et comment ils sont sur le moment. Donc c'est une adaptation constante. Après, je dirais que les personnes qui sont sans pathologie, c'est un contact humain qui est aussi important, parce que même s'ils n'ont pas de pathologie ou de handicap, ils viennent aussi avec souvent leur envie de faire du sport ou pas. Et ce que ça m'apporte vraiment, c'est... vraiment du bien-être, c'est ce que je peux dire, c'est vraiment du bien-être parce qu'ils vont m'apporter soit dans la partie professionnelle, ce que je vous avais dit, une remise en question, ou alors sur la partie humaine, vraiment un plaisir de les voir, de les rencontrer, de partager des moments de vie avec eux ou pas. Et on utilise en fait la partie sport aussi pour la partie humaine.
Et du coup, vous avez parlé d'une adaptation, mais du coup, comment vous vous adaptez selon les personnes ?
Tout dépend de la pathologie, tout dépend aussi du handicap. Si on est sur la partie onco, c'est le plus gros de mes séances de la semaine, je fais un bilan, ce qu'on appelle un bilan thérapeutique du patient avant, où je vais la rencontrer sans faire de séance de sport, et je vais faire avec elle le bilan de son diagnostic, des ressources qui ont été mises en place d'elle-même, donc savoir si elle pratique déjà du sport avant ou pas, les traitements qu'elle a sur le moment, et puis en fait je vais m'intéresser vraiment à son bilan médical personnalisé. Et à la suite de ça, on va se donner des objectifs avec la patiente, ou le patient. Une fois que tout ça est fait, je vais pouvoir adapter mes séances en fonction de ce dont elle a besoin. Donc vraiment, c'est du cas par cas. Et c'est très important de faire du cas par cas, parce qu'un exercice peut être bon pour un patient, mais pas forcément bon pour un autre patient. Et en fonction de sa partie oncologique. Ça, c'est pour la partie onco, cancer. Sur la partie handicap, je fais souvent des séances de groupe. On peut avoir tout type de handicap, hein. Je travaille aussi très bien avec des personnes porteurs de trisomie 21, d'ailleurs avec l'association Donop qui est sur Arras, ou alors sur la partie autisme que j'ai vu l'année dernière, le contrat s'est arrêté, montré avec le César de Pinocchio sur Arras également. Et là, pas plus tard que ce matin, on a été à la ferme de la Motte à Quiry pour pouvoir bosser avec... avec ce type de public. Donc je m'adapte vraiment en fonction des retours qu'ils me font sur le moment. Et ça, il faut absolument savoir le faire, et c'est d'ailleurs ce que j'apprends aussi à Yanis maintenant. C'est comme tout à l'heure, la séance qu'on a pu faire sur le papier, sur le moment, ça dépend comment les gens viennent, et ça dépend ce dont ils ont besoin sur le moment. Donc c'est de l'adaptation constante.
Yanis, vous êtes en stage avec Quentin. Ça vous plaît? Vous souhaitez suivre ses traces?
Alors moi, il faut savoir que je suis sur deux structures. Je suis avec la mairie de Saint-Laurent-Blangy et avec Quentin. Donc avec la mairie de Saint-Laurent, j'ai plus un public général. Faut savoir que dans ma formation, le public handicapé n'intervient pas. Donc ce que je fais avec Quentin, c'est que du plus. Mais oui, ça me plaît énormément. C'est vraiment... ouais, c'est top.
Quentin, que diriez-vous à une personne qui hésite à se lancer dans le sport?
Je lui dirais que si elle le fait, c'est en priorité parce qu'elle aime une pratique en particulier. Si elle y va pour des objectifs, sans objectif, pardon, elle ne le tiendra pas dans le temps. En revanche, si jamais il y a des objectifs pas forcément de haut niveau, par exemple si on prend un public senior, aller chercher un objectif chez un public senior, c'est se dire jouer avec mes enfants le plus longtemps possible. À ce moment-là, il faut avoir des capacités motrices qui sont là, physiques, et d'équilibre aussi, de mémoire. Enfin bref, il y a pas mal de choses et d'attention éducative à aller chercher là-dedans. Ce qui est important, et ce que je dirais à une personne, c'est donne-toi des objectifs à court, moyen ou long terme. Et avec ces objectifs-là, ça donnera une raison d'aller pratiquer un peu tous les jours ou tous les deux jours en fonction du rythme. Ensuite, ce que je leur dirais aussi, c'est, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, c'est on pense souvent, avant de mettre ses chaussures pour aller courir ou faire quelque chose, on a la sensation de se dire soit j'ai peur d'y aller, soit j'ai peur d'avoir mal, soit la flemme. on l'a beaucoup. En fait, c'est la sensation qui est sur le moment à laquelle on pense. Moi, j'invite les gens à penser à la sensation à la fin. Et quand vous avez fini une séance de sport, vous n'avez plus la sensation de la flemme, etc. Vous avez la sensation de... bien-être, où on se sent bien, vous avez une dose de dopamine qui est mise en place, et du coup, si vous faites ça le matin, vous êtes paré pour votre journée. Si vous faites ça le soir, on se dit, je termine bien ma journée. Et donc du coup, pour répondre à la question, c'est, je vous invite juste à penser à la sensation après la séance et pas avant.
Et justement, pourquoi le sport est-il important, surtout après une maladie?
Tout dépend de la maladie.
Ouais.
là, on parle de l'oncologie. Il faut bien comprendre qu'il y a des études qui ont été faites en Amérique par rapport à l'oncologie, où l'activité physique adaptée est un soin de support. C'est-à-dire qu'à côté des traitements qu'on peut avoir, immunothérapie, chimiothérapie, thérapie ciblée, etc., l'activité physique adaptée va vous permettre de pouvoir réceptionner au mieux tous ces traitements-là. Va pouvoir aussi vous permettre de développer, et ça c'est un peu plus technique, mais c'est par rapport à l'endurance qu'il faut bosser avec eux, pour développer le maximum de globules rouges. Les globules rouges vont vous permettre de pouvoir tenir en endurance sur votre journée. Ils ont déjà fait des études entre une personne qui ne fait pas d'activité physique adaptée avec leur traitement et activité physique adaptée avec traitement, et on voit que la personne qui fait de l'APA fait des meilleurs résultats. Aujourd'hui, c'est considéré l'APA comme un médicament, d'accord, que vous ne trouvez pas forcément fait du coup en pharmacie. Par contre, à côté de ce que vous pouvez trouver à l'hôpital, là, avec la CPTS du Grand Arras, on développe commune par commune de l'activité physique adaptée pour tous les patients de chaque commune, afin de pouvoir leur permettre de continuer le soin en parallèle de leur traitement.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous spécialiser dans le coaching de personnes en situation de handicap ?
Parce que j'ai été touché de près ou de loin par ce domaine-là. Disons que dès petit, j'ai connu tout de suite la partie handicap avec ma famille. J'ai été confronté tout de suite au décès, etc. Et en fait, je me suis construit avec ça. Donc sans savoir que ça allait m'être utile, entre guillemets, par la suite. C'est pas forcément un métier que... Alors, je l'ai choisi, évidemment, mais c'est venu tout seul, dans le sens où ça faisait partie de moi. Et à force d'être confronté durant les 31 dernières années, finalement, c'est venu naturellement. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux, c'est ça dont j'ai besoin, et c'est ça que j'ai envie d'apporter aux gens. Et d'ailleurs, le chemin n'est pas fini, parce que j'ai envie de progresser aussi dans pas mal de choses, mais... en fait, ce métier-là est venu par rapport aussi à la vie perso. En parallèle, j'ai fait mes études d'éducateur sportif, d'enseignant en activité physique adaptée. Et ceci et cela ont fait que j'arrive ici.
Et justement, vous parlez de métier, c'est votre métier à temps plein ?
Ça, c'est mon métier à temps plein. Avant, j'étais éducateur sportif dans une association à Arras. J'ai démissionné pour pouvoir me mettre à mon compte dans le sport. Et l'avantage, c'est qu'on peut... quand on a son compte, traiter les sujets qu'on souhaite, suivant les opportunités. Et puis, du coup, en remplissant au fur et à mesure mon planning, ça m'en fait un temps plein.
Yanis, du coup, comment se passe ce stage ? Ça vous plaît ? Ça confirme vos choix d'orientation pour plus tard, votre métier ?
Alors, c'est sûr qu'au début, j'avais un peu d'appréhension, parce que j'avais jamais travaillé avec un public handicapé. Mais je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça. En fait, il y a aucun jugement quand tu travailles avec ce genre de public. C'est naturel. Enfin, il y a pas de jugement, quoi.
Pour les personnes qui participent, comment est l'ambiance ? Qu'est-ce que ça leur apporte au quotidien ?
Alors, il faut savoir que l'APA, c'est nouveau.
Ouais.
Sur la partie médicale, de plus en plus de médecins commencent à prescrire parce que c'est des séances sous ordonnance. Tout le monde ne peut pas y accéder. Qu'est-ce que ça leur apporte ? Il faut savoir aussi que pour eux, c'est un rendez-vous d'une semaine. Ils ont peut-être une séance une à deux fois semaine. Et en fait, pour moi qui enchaîne les séances comme ça, on va dire, je le banalise pas, mais voilà. On fait les mêmes choses et on travaille. Pour eux, il faut prendre conscience que c'est leur rendez-vous de la semaine. C'est grâce à ça aussi que peut-être ils échappent à l'isolement social. Ils restent peut-être tout seuls chez eux et peut-être que le moral est au plus bas. Et en fait, les séances leur apportent énormément de bien-être social et bien-être mental. Ça, on y vient de plus en plus à en discuter dans les forums, etc. Il y a le bien-être physique et le bien-être mental. Donc, qu'est-ce que ça leur apporte du bien-être physique et mental, principalement ? Yanis, bah, il vient de démarrer, ça fait que 3 semaines, hein, donc on est sur les bases. Je lui montre d'abord comment le métier... donc il m'accompagne que sur le jeudi, il faut le savoir. Du coup, il voit un public le matin, 2 heures, porteur de handicap. Ensuite, bon, il va voir, à partir de la semaine prochaine, il va voir un public en oncologie à Annie. Et puis ensuite, on a de la gym senior et enfin du cross-training le soir. Donc c'est une journée qui est quand même bien remplie. Où on finit relativement tard. Voilà, Yanis, pour l'instant, il regarde, il participe un peu. Je lui laisse quelques échauffements pour qui s'acclimate à chaque public, parce qu'on n'aborde pas un public porteur d'handicap comme un public en oncologie, comme un public gym senior sans pathologie. Donc, voilà, donc il y a une posture à avoir. Donc ça, il est en train de le voir, il va l'apprendre. Et il est avec moi jusqu'au mois de décembre. Donc on a le temps de voir tout ça, sachant qu'il a ses évaluations au mois de juin. L'objectif, parce qu'il n'y a pas aussi que pour les adhérents et les patients, et aussi pour moi, c'est que je laisse Yanis au mois de décembre prêt à pouvoir exercer dans une asso, dans une mairie, à son compte, comme il voudra.
Eh bien, merci beaucoup Quentin, merci beaucoup Yanis.
Merci.
Au revoir.
Au revoir, bonne journée.
Merci à Quentin et Yanis de nous avoir accordé un peu de leur temps. C'était Zoé, Louise et Zoé dans le cadre d'un atelier avec la filière Infocom de Beaudimont, en partenariat avec la radio PFM.